Le mauvais génie, chapitre 28. Le retour. Un jour qu'il visitait un des hôpitaux français, en traversant une des salles, il s'entendit appeler. Il approcha du lit et reconnut Frédéric. Mais ce n'était que l'ombre du vigoureux soldat qu'il avait quitté 2 ans auparavant. Maigre, pâle, affaibli, Frédéric pouvait à peine parler. Il saisit la main de son ancien défenseur et la serra dans les siennes.
« Quoi tu avais, malheureuse? Toi étais ici, dans l'hôpital? »
« J'y suis depuis 3 mois, monsieur. Je suis bien malade de la fièvre et qui ne veut pas me quitter. Si je pouvais changer d'air, retourner au pays... Il me semble que je guérirai bien vite.
Il fallait, mon brave Frédéric, il fallait.
Mais je ne peux pas, monsieur. C'est difficile à obtenir. Et je ne connais personne qui puisse faire les démarches nécessaires.
Et les braves colonels?
Le régiment a été envoyé à Napoléonville, monsieur. J'en suis bien loin.
« Et quoi tu es? Brigadier, toujours? » ?»«
Non, monsieur. Je suis maréchal des logis et porté pour la croix. Mais je crains bien de ne jamais la porter. »«
La croix? Maréchal des logis? C'était joli, très joli. Maréchal des logis et la croix à 21 ans? » J'ai demandé pour toi, j'obtiendrai, je t'emmenerai avec moi, je te mènerai à Madame Bonnard.
Frédéric lui serra les mains. Son visage rayonna de bonheur. Il le remercia chaudement. 8 jours après, M. George lui apportait un congé d'un an. Il s'occupa ensuite du passage sur un bon bâtiment et des provisions nécessaires pour le voyage. 15 jours plus tard, M. George et Frédéric débarquaient à Toulon. Ils n'y restèrent que 24 heures pour y prendre quelque repos. Frédéric écrivit à sa mère pour lui annoncer son arrivée avec M. George. 3 jours plus tard, ils entraient dans la ferme des Bonnard. L'entrevue fut émouvante. Madame Bonnard ne pouvait se lasser d'embrasser, d'admirer son fils et de remercier M. George. Le père ne se lassait pas de regarder ses galons de maréchal des logis. Julien était tellement embelli et fortifié qu'il était à peine reconnaissable. Frédéric fut beaucoup admiré. Il avait grandi d'une demi-tête, il avait pris de la carrure. Ses larges épaules, son teint basané, ses longues moustaches lui donnaient un air martial que Julien enviait.
« Tu te crois chétif, mais tu es grandi à ne pas te reconnaître. Pense donc que tu n'as que 17 ans. Tu es grand et fort pour ton âge. »
« Le fait est qu'il nous fait l'ouvrage d'un homme, et toujours prêt à marcher, jamais fatigué. »
« Pas comme moi à son âge. »
Il devint pensif. Le passé lui revenait.
« Allons, maréchal des logis, pas parler des 17 ans, parler des 22, c'était plus agréable. Voyez, papa Bonnard, combien votre garçon, il était superbe. Et ses magnifiques galons, et moi qui voyais arriver les galons sur mon toit. »«
Comment sur votre toit? Quel toit ?»
C'était les toitures du colonel. Je voyais dès mon lunette. Il s'y battait furieusement. C'était beau, magnifique. Frédéric, il tapait sur les moricauds. Les moricauds, il tombait, il tortillait. C'était les serpents contre les lions. Et Frédéric était après brigadier. Et un autre combattement, il était maréchal des logis.
Frédéric voulut changer de conversation, mais M. George revenait toujours aux batailles, aux traits de bravoure, aux hauts faits de Frédéric. Le père était tout oreille pour M. Georgey. La mère était tout yeux pour son fils. Quand on eut bien causé, bien questionné et bien dîné, quand Frédéric eut bien fait connaître ce qu'il devait à son excellent protecteur, sauf l'affaire du conseil de guerre que M. Georgey l'avait engagé à ne confier qu'à sa mère, Bonnard voulut faire voir son maréchal des logis dans le bourg. Il lui proposa d'aller chez M. le curé.
Et aussi, je voulais voir les logements pour moi. Quoi faisait Caroline?
Votre logement est tout prêt, monsieur. Nous avons une belle chambre pour vous à la ferme. Grâce aux 12 000 francs que vous avez laissés à Julien, grâce à votre générosité envers lui et envers nous, nous avons bien agrandi et amélioré la maison. Et si vous désirez avoir Caroline, elle viendra très volontiers. Elle est chez sa mère, elle fond des gants.
Oh yes, je voulais très bien. Je voulais voir mon logement chez vous.
M. Georgey fut promené dans toute la maison. Il y avait en haut deux grandes et belles chambres. Julien en avait une près de lui. Il en restait deux pour Caroline et pour quelque autre visiteur. En bas demeuraient Bonnard et sa femme et Frédéric. En redescendant dans la salle, Frédéric jeta un regard furtif du côté de l'ancienne armoire brisée. Il vit avec une vive satisfaction qu'elle n'y était plus. M. Georgey, après le départ de Frédéric, avait acheté un beau dressoir buffet qui avait remplacé l'armoire fatale brûlée par son ordre. Pendant plusieurs jours, Bonnard triomphant mena son fils chez toutes ses connaissances et dans la ville, où il cherchait tous les prétextes possibles pour le faire passer devant la demeure des gendarmes. Les galons de Frédéric lui valaient le salut militaire des simples gendarmes et une poignée de main du brigadier. Le père saluait avec son fils et s'arrêtait volontiers pour causer et dire un mot des combats racontés par Georgey. Frédéric ne voulut pourtant pas rester oisif. Il travailla comme Julien et son père. Ce fut pour Bonnard un avantage réel. Il ne prenait plus d'ouvriers, tout le travail se faisait entre eux. Caroline, qui était rentrée avec joie chez son ancien maître, aidait Madame Bonnard dans les soins du ménage et ceux du bétail. M. Georgey vivait heureux comme un roi, entouré de gens qu'il aimait et qui éprouvaient pour lui autant d'affection que de reconnaissance. Il résolut de se fixer dans le pays. Il acheta tout près des Bonnard une jolie habitation au bord d'une rivière très poissonneuse où il pouvait se donner le plaisir de la pêche et dont il voulut profiter pour y établir une usine. Caroline devint sa femme de ménage sous la direction de sa mère, qui était entrée avec elle au service de M. Georgey. La fin du congé de Frédéric approchait. Il ne restait plus que 3 mois de cette bonne vie de famille. Il regrettait souvent de ne pouvoir la continuer jusqu'à la fin de sa vie.
Mais il faut que je fasse mon temps. J'ai encore 3 années de service.
Madame Bonnard pleurait. Frédéric cherchait à la distraire, mais plus le moment approchait, plus la tristesse augmentait, et plus Frédéric se sentait disposé à la partager.
Ah, si j'avais 18 ans, comme je partirais à ta place, et avec quel bonheur je vous donnerais à tous ce témoignage de ma reconnaissance.
Tu aimerais donc la vie de soldat?
Non, pas à présent. Mais si c'était pour t'en débarrasser, je l'aimerais plus que tout autre état.
C'était si magnifique, c'était si glorieux.
Un jour, au moment du dîner, M. Georgey présenta une lettre à Frédéric.
C'était le colonel. Il demandait les nouvelles de ta santé.
Que c'est bon à lui. Excellent colonel.
Qu'est-ce qu'il te dit? Lis-nous cela.
Mon cher Bonnard, je t'expédie ta libération du service et la croix que tu as si bien gagnée. Je veux te donner moi-même cette bonne nouvelle et te dire que je te regrette, toi qui étais une des gloires du régiment. Tes chefs et tes camarades te regrettent comme moi. Mais, puisque le médecin déclare, d'après ce que me dit Georget, que tu ne peux retourner en Afrique sans danger pour ta vie, je n'hésite pas à t'accorder ta libération du service. La voici bien en règle. Adieu, mon ami. J'espère bien te revoir en Pékin un jour ou l'autre. Ton ancien colonel du 102e chasseur d'Afrique, Bertrand du Guesclin.
Frédéric eut de la peine à aller jusqu'au bout. La joie, la surprise, la reconnaissance lui étranglaient la voix. Quand il eut fini, il regarda M. Georget qui souriait et, se levant, il prit une de ses mains, la serra vivement et la porta à ses lèvres. Il voulut parler, mais il ne put articuler une parole. De grosses larmes coulaient de ses yeux. M. Georget se leva, le serra dans ses bras.
C'était rien, ça était rien. Je n'avais pas beaucoup de peine à faire les choses. Seulement j'avais fait de l'écriture. Madame Bonnard, il était bien joyeux.
Oh, monsieur, notre cher et respectable bienfaiteur, comment vous remercier? Que faire pour vous témoigner notre reconnaissance?
Il fallait être bien heureuse et puis donner une petite portion amitié pour le pauvre Georget tout seul, sans famille.
Nous serons toujours vos plus sincères amis, vos serviteurs dévoués. Nous vous ferons une famille, cher, excellent bienfaiteur. Vous avez rendu le fils à sa mère. La mère n'oubliera jamais ce qu'elle vous doit.
La joie de Bonnard était à son comble. Voir son fils décoré et sergent, le voir rester au pays et jouir sans cesse de sa gloire comblait tous ses vœux. À partir de ce jour, ce fut un bonheur sans mélange. Jamais M. Georget n'éprouva le désir de quitter ses amis et de reprendre ses anciennes relations. Il trouvait au milieu des Bonnard tout ce qu'il avait désiré, du calme, de l'affection, des sentiments honorables, des goûts simples, une reconnaissance sans bornes. Il a augmenté sa maison d'une jeune sœur de Caroline, bonne, active et agréable. Elle a 19 ans. Frédéric trouve en elle les qualités nécessaires au bonheur intérieur. Madame Bonnard désire vivement l'avoir pour belle-fille. Monsieur Georget dit sans cesse des paroles qu'il croit fines et qui désignent clairement que ce mariage lui serait fort agréable. Frédéric sourit, Pauline rougit et ne paraît pas mécontente. Tout le monde s'attend à voir une noce avant 2 mois. Frédéric a 24 ans. Il aura du bien, il est beau garçon, religieux, laborieux. Depuis la mort de son mauvais génie, comme il appelait Alcide, il n'a jamais failli. Il sera bon mari et bon père, car il est bon fils, bon ami et surtout bon chrétien. Julien compte passer sa vie près de ses bienfaiteurs, qui espèrent le garder toujours. Il parle souvent avec M. Georget de l'avantage qu'il y aurait à profiter de la petite rivière qui traverse sa propriété pour établir une fabrique de fils de fer et de laiton. M. Georget ne dit pas non. Il sourit, il fait des plans qu'il explique à Julien et il passe des soirées entières à former des projets qui seront probablement exécutés bientôt. P.S. j'apprends que Frédéric est marié depuis 8 jours, que M. Georgé a donné en présent de noces à Frédéric la somme de 10 000 francs et 5 000 à Pauline. Il a commencé à construire une manufacture dont il donnera la direction et les produits à Petite Julienne. Ils sont tous aussi heureux qu'on peut l'être en ce monde.